Belle fin de journée, il est 19h.
Le problème que nous avons, c'est quand au nom d'une religion, on veut se séparer de la République et donc ne plus en respecter les lois. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme.
Emmanuel Macron à Mulhouse, aujourd'hui un déplacement sur le thème de la lutte contre le séparatisme islamiste.
Le projet de rachat de Bombardier par Alstom pour devenir un géant du rail, les salariés s'inquiètent pour leur emploi.
On vous racontera aussi comment à Toulouse, un vendeur de sushis a fait tomber deux policiers pour corruption. Et bien sûr le foot, Dortmund-PSG, coup d'envoi dans 2 heures maintenant, 8e de finale de Ligue des Champions. Et cette fois il faut vaincre la malédiction.
La météo pour demain, les tendances, avec une journée un peu mieux, un petit peu plus calme. Le ciel sera très gris, mais il y aura moins de pluie demain. Et c'est toujours aussi beau dans le quart sud-est. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron a donc passé la journée à Mulhouse, dans le Bas-Rhin. Je suis venu parler de la République, a-t-il dit en préambule.
Notre ennemi, c'est le séparatisme, a martelé le président, qui s'est longuement expliqué. D'abord auprès de la population, au cours d'un très long bain de foule. Puis lors d'un discours, il a notamment insisté sur la lutte contre les influences étrangères, en particulier dans le milieu scolaire.
Un vecteur important du séparatisme qu'on peut observer, c'est au sein de l'école ou du périscolaire, le problème des enseignements en langue et culture d'origine étrangère. C'est ce qu'on appelle les fameux ELCO. Je pense aujourd'hui indispensable que toutes les personnes qui enseignent ces langues et ces cultures d'origine étrangère puissent faire l'objet aujourd'hui d'un contrôle, que nous nous assurions qu'elles parlent et qu'elles maîtrisent le français, qu'elles respectent elles-mêmes les lois de la République et que nous regardions le contenu de ce qu'elles enseignent. Pour cela, il y a une possibilité simple, c'est d'aller vers un autre système, celui des enseignements internationaux en langue étrangère. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire avec beaucoup de clarté et de force aujourd'hui, c'est qu'à partir de la rentrée de septembre 2020, les enseignements en langue et culture d'origine étrangère seront partout supprimés sur le sol de la République.
Emmanuel Macron, tout à l'heure au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mulhouse, Jean-Rémy Baudeau, le chef de l'État, qui a également annoncé que la France allait former des imams afin qu'ils puissent maîtriser la langue et les lois de la République et mettre fin aux imams qui sont formés et détachés par des pays étrangers comme l'Algérie ou la Turquie. Éclaircir également la question du financement des lieux de culte. Vers la fin de l'ENA, l'École nationale d'administration, symbole d'une élite coupée du peuple, Emmanuel Macron avait promis de la supprimer lors de la crise des Gilets jaunes. Elle sera bientôt remplacée par une école du management public ouverte aux jeunes d'origine modeste. L'affaire Griveaux-Alexandra de Taddeo, mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion de vidéos sans l'accord de la personne. On ne connaît pas encore l'éventuelle sanction qui sera réservée à son compagnon, l'activiste russe Piotr Pavlinsky.
C'était sur Europe 1 ce matin. Le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, se voulait rassurant. Le rachat de Bombardier Transport pour créer un géant du ferroviaire n'entraînera pas de menaces sur l'emploi, dit-il.
Oui, des promesses qui n'ont pourtant pas rassuré à 100% les salariés, comme a pu le constater Lionel Gougelot sur le site de la Petite Forêt, près de Valenciennes.
Quand les entreprises se regroupent, on ne dit pas 1 plus 1, ça peut faire 3. On dit que malheureusement, souvent, 1 plus 1, ça fait moins 2.
Vincent Joviac, délégué Force ouvrière, ne fait pas le même calcul que le PDG d'Alstom. Même si dans la région de Valenciennes, les sites Alstom et Bombardier sont complémentaires, des emplois pourraient bien faire les frais de ce futur rachat.
Pour l'instant, la direction, ce qu'elle dit, c'est que leur objectif, c'est de réussir le projet et puis que ça se passe le mieux possible pour les salariés. Ce qui compte, c'est sur le long terme. Parce qu'une telle opération, il faut l'amortir. Et donc forcément, il y aura une recherche de réduction de coûts. Et une des grosses variables, c'est les effectifs et donc les salariés.
1500 salariés chez Alstom Petite Forêt, 2000 chez Bombardier à Crépin. La meilleure garantie pour l'emploi, ce serait en fait une stratégie industrielle claire. Et pour l'heure, le projet est encore flou, selon Samir Dardari, délégué CGT.
Au-delà de la problématique d'emploi, c'est de se demander quelle va être la stratégie industrielle qui va être menée après le rachat de Bombardier. Mais aussi savoir à quelle hauteur le gouvernement nous présentera des choses qui pourraient éventuellement tenir la route sur une vraie politique industrielle ferroviaire en France.
Les détails du plan devraient être exposés aux salariés d'Alstom le 12 mars prochain. Il faudra ensuite attendre le feu vert de Bruxelles. À Petite Forêt, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'épidémie de coronavirus, ce soir, la Russie prend une mesure radicale. Elle interdit à tous les Chinois l'entrée sur son territoire.
En France, sur les 12 cas confirmés, seules 4 personnes restent hospitalisées aujourd'hui, 3 à Lyon et 1 à Saint-Etienne. Un troisième cas a par ailleurs été diagnostiqué parmi les 4 ressortissants français à bord du paquebot Diamond Princess.
Le procès des 2 universitaires français détenus en Iran depuis le mois de juin, Fariba Adelka et Roland Marchal s'ouvrira le 3 mars à Téhéran.
Ils sont poursuivis pour propagande contre le système politique de la République islamiste et collusion en vue d'attentats à la sûreté nationale. Deux policiers toulousains dorment en prison depuis hier. Ils auraient soutiré de l'argent à un livreur de sushis pris en excès de vitesse. Benjamin Peter, c'est grâce au téléphone du livreur qu'ils ont été démasqués.
Oui, et plus précisément grâce à l'application Magnétophone qui a permis d'enregistrer la totalité de ce deal. L'affaire se déroule vendredi soir, un vendredi de Saint-Valentin. Les commandes de plateaux de maquis ne manquent pas pour ce livreur de sushis qui traverse la commune de Colomiers au nord de Toulouse. Sauf qu'il va trop vite. Il est arrêté par un gardien de la paix et un brigadier en excès de vitesse. Il risque une suspension de permis, alors les deux policiers vont lui proposer un marché. Pas de prune contre plusieurs centaines d'euros. Il accepte, va retirer de l'argent et remet la liasse aux deux policiers, mais tout ça après avoir bien pris soin d'enregistrer toute la conversation. De retour au restaurant, il raconte tout à son patron et les deux hommes vont aller porter plainte en prenant soin de bien fournir le fichier audio. Le parquet va alors ouvrir une information judiciaire conduite par le SRPJ de Toulouse et l'IGPN de Bordeaux, la police des polices. Les deux policiers sont identifiés, interpellés et vont reconnaître les faits, ce qui a conduit à leur mise en examen pour corruption et leur placement en détention provisoire. Mais les investigations se poursuivent pour savoir si ces petits arrangements étaient une habitude des deux hommes.
Un récit signé Benjamin Peter à Toulouse pour Europe 1.
Et puis on aime ces grands moments de Ligue des Champions, 8e de finale ce soir. La soirée démarre sur Europe 1 dans une heure à 20h précise. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur face à Dortmund. Les Parisiens qui doivent mettre fin, Isabelle, à la malédiction. Eux qui ont été éliminés à 3 reprises à ce stade des 8e.
Et on retrouve en direct Cyril de la Morinerie qui va nous faire vivre ce match avec Julien Froment. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors vous êtes devant l'énorme stade dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, à l'intérieur duquel il y a le fameux mur jaune. Est-ce que les supporters parisiens sont confiants, Cyril?
Oui, les 3300 supporters parisiens présents à Dortmund sont très confiants. Certes, ils seront en nette infériorité numérique. Tout autour d'eux, il y aura plus de 63 000 fans de BVB, l'un des clubs les plus populaires d'Allemagne. Mais le PSG est sur le papier plus fort. La malédiction des huitièmes de finale va bien finir, bien par prendre fin. Et de toute façon, rappelle Jérémy que j'ai rencontré tout à l'heure, la première manche est souvent favorable au PSG.
En général, on réussit plutôt bien nos matchs aller en 8e de finale de Ligue des Champions. La tournure du match va faire qu'a priori, Paris va prendre l'avantage. Le mur jaune va se calmer. On va surtout entendre les ultra-parisiens.
Les fans du PSG nous l'assurent, ils vont briser ce fameux mur jaune. D'autant que l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a dirigé Dortmund durant 2 saisons. Et ça, c'est un net avantage, prédit Benjamin.
Je pense qu'il connaît les lieux, il connaît le stade, il connaît les supporters. Donc ça peut nous aider à connaître les secrets pour pouvoir déjouer la forteresse de Dortmund.
Un petit pronostic.
3-0 pour Paris.
3-2 pour le PSG.
Voilà, ils sont confiants, les supporters du Paris Saint-Germain. Un immense tifo est prévu ce soir dans ce stade, le Signal Iduna Park. Moi, je me lance, même si je n'ai pas fait allemand. Allez-y. Première langue. Et à chaque fois, donc, ce stade est incandescent. Il entonne, comme à Liverpool, un frissonnant « You will never walk alone ».
On a des frissons. Merci Cyril de la Morinerie. En direct de Dortmund, rendez-vous donc dès 20h pour une grande soirée foot sur Europe 1, pilotée en direct et en public par Lionel Rousseau.